VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Bamako, 18h à Abuja. Bienvenue dans notre journal. Et cela vient de tomber. Notre correspondant Ibrahim Ahmed a donc nous confirme qu'il a vu le président sortant Jonathan, Goodluck Jonathan, féliciter Muhammadu Buhari. Je suis en ligne avec Anne Luke, notre envoyée spéciale à Abuja. Anne, qu'en est-il au moment où je vous parle?
Oui, moi, je suis au siège de APC, le parti du Muhammadu Buhari, et l'ambiance, vraiment, ça commence à monter ici. Les gens commencent à venir ici, on commence à faire la fête.
Ah, donc, pour vous, est-ce que vous avez eu une confirmation officielle?
Non, on n'a pas encore la confirmation officielle, mais depuis quelques heures, avec, on voyait des résultats tomber, on disait, ouais, il va être le gagné. Que Buhari a gagné. Mais ce qui est étonnant, ce qui est bien, c'est que le président, on est en train de voir une alternance politique qui, par toute indication, va être pacifique. Si le président Jonathan a appelé Buhari pour le féliciter, ça veut dire qu'on ne va pas entrer dans des batailles devant les tribunaux, dans les batailles dans la rue à propos des résultats. Je pense que tout le monde se sent vraiment rassuré et les gens vraiment sont excités, tout le monde sourit.
Bon, ce sont des bonnes nouvelles alors en provenance du Nigeria. Écoutez, on vous donne donc plus d'informations dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui. Anne Luke, je vous remercie.
Merci.
Donc la suite des informations, donc nous allons suivre bien évidemment dans tous nos journaux la suite de ces élections présidentielles au Nigeria. Au Mali, le comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses opérations à la suite de suspendre ses opérations et ses déplacements dans le nord du Mali au lendemain de la mort d'un de ses employés dans une attaque qui a fait aussi un blessé. Plus de détails avec Issia Kaba.
Abou Walid Sahraoui, du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, a revendiqué l'attaque dans un bref entretien téléphonique avec un journaliste de l'AFP à Bamako. Joint par VOA Afrique, Valérie Mbaonana, porte-parole du CICR au Mali, a indiqué que l'organisation humanitaire suspendait tous ses mouvements dans le nord du Mali dans l'attente de clarifier les circonstances de cette attaque et de prendre les mesures qui s'imposent. En revanche, les activités dans les centres urbains restent opérationnelles. L'attaque a eu lieu entre Gao et Ansongo et visait un camion du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui devait rejoindre Niamey au Niger pour apporter du matériel médical pour l'hôpital de Gao. En février 2014, 5 humanitaires maliens, dont 4 membres du CICR, avaient été enlevés alors qu'ils reliaient Kidal à Gao, leur base. Leur rapt avait été revendiqué par le Moujao. Pour mémoire, le Moujao est un des groupes alliés d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ont contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et début 2013.
Et Mali toujours, Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali, est témoin dans l'enquête française sur un présumé financement libyen en faveur de l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy. D'après son entourage, cité par l'AFP, ATT a été auditionné aujourd'hui à Dakar. Exilé dans la capitale sénégalaise depuis le renversement de son pouvoir en avril 2012, il avait été convoqué par la police judiciaire sénégalaise dans le cadre d'une commission rogatoire française. À Kampala, en Ouganda, les funérailles de John Kagezi auront lieu demain. La procureure en charge du procès des attentats de Kampala de 2010 a été abattue lundi soir dans la capitale ougandaise. Nicolas Pinault.
Les assassins de John Kagezi ne lui ont laissé aucune chance. Des individus à moto ont suivi lundi soir la directrice adjointe du ministère public ougandais et l'ont abattue froidement dans son véhicule. Ses 3 enfants qui étaient à bord n'ont pas été blessés. C'est ce qu'a expliqué le chef de la police ougandaise, Kale Kayihura, dans un communiqué. Madame Kagezi était au cœur du procès de l'année dans la capitale ougandaise, celui de 13 hommes accusés d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala, qui avaient fait 76 morts. Ces attaques avaient été à l'époque revendiquées par le groupe somalien Shabab. Ce procès a été suspendu ce mardi. Younoussou Kassirivou, un avocat de la défense, a indiqué que ses confrères et lui s'entretiendraient avec le juge ce mardi pour décider de la suite du procès. Les accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et un Tanzanien, sont tous inculpés de nombreux chefs, notamment actes de terrorisme et meurtres. Tous, sauf un, sont également inculpés pour appartenance à une organisation terroriste. Souvenez-vous, le 11 juillet 2010 à Kampala, deux kamikazes avaient déclenché leur ceinture d'explosifs dans deux établissements qui retransmettaient la finale de la Coupe du monde de football.
Nous vous l'annoncions hier, Barack Obama se rendra au Kenya en juillet. Ce sera son premier voyage en tant que président sur la terre de ses ancêtres. Et nous avons cherché à en savoir un petit peu plus sur ce voyage africain du président américain. Nicolas Pineau a joint pour une analyse l'ancien ambassadeur des États-Unis à Nairobi, Marc Bellamy. L'ancien diplomate explique à VOA Afrique pourquoi cette visite était attendue.
Le président avait toujours, je crois, l'intention de visiter le Kenya avant la fin de son administration. Il a fallu choisir un bon moment. Ils ont choisi le moment, c'est le moment de ce sommet. Et je crois que ce sera l'occasion de faire plusieurs choses, de réaffirmer l'importance des relations bilatérales, de célébrer le dynamisme économique au Kenya, qui est une histoire assez intéressante, de parler des questions de sécurité sans doute, et on peut espérer aussi de relever quelques sujets un peu plus sensibles autour des questions de droits de l'homme.
Le timing de cette annonce n'est pas anodin puisqu'il intervient après l'abandon des poursuites par la Cour pénale internationale contre le président Uhuru Kenyatta.
Je crois que cette question, ce problème, si vous voulez, est maintenant derrière le président Kenyatta. Je ne crois pas que ce sujet sera traité au cours de sa visite. Il faut rappeler aussi que la poursuite de son vice-président est toujours en cours. Donc cette question d'impunité et des obligations du Kenya devant le cour sont toujours là.
L'ancien ambassadeur des États-Unis à Nairobi, Marc Bellamy, qui était joint ici à Washington.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et l'actualité dans le reste du monde, le conflit s'intensifie au Yémen. La coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite a intensifié ses bombardements aériens. La capitale Sanaa a subi avant l'aube les raids les plus violents depuis le début de cette offensive contre les rebelles houthis débutée il y a 6 jours. Le pays semble être au bord de l'effondrement total, a estimé l'ONU. Le point avec Michel Joseph.
C'était horrible. De fortes explosions ont résonné toute la nuit, témoigne un habitant de Sanaa, cité par l'AFP. Ces bombardements d'une extrême violence se sont concentrés sur des positions de la garde républicaine. Ce corps armé, resté fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, est aujourd'hui allié aux Houthis, les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent de vastes régions du pays. Téhéran, au cœur des tensions diplomatiques nées de ce conflit, alors que Riyad accuse l'Iran de soutenir l'insurrection chiite. Les deux pays qui se renvoient la balle et se reprochent mutuellement de déstabiliser le Yémen. Le feu de la guerre poussera toute la région à jouer avec le feu. Les opérations militaires doivent s'arrêter immédiatement, estime le ministère iranien des Affaires étrangères. En attendant, les victimes s'accumulent. L'ONU compte des dizaines de civils tués au cours des 4 derniers jours.
Les négociations de Lausanne sur le nucléaire iranien pourraient se poursuivre mercredi si des progrès sont enregistrés dans les heures qui viennent. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un responsable du département d'État ici aux États-Unis. Théoriquement, la date butoir s'achève aujourd'hui, mardi à minuit. En Turquie, des hommes armés ont pris en otage dans un tribunal d'Istanbul le procureur en charge d'une enquête ouverte après la mort d'un jeune homme blessé par la police lors des manifestations anti-gouvernementales de 2013. Et aujourd'hui également, l'ONU a exhorté la communauté internationale à accroître fortement son aide humanitaire aux Syriens, car après 4 ans de guerre, 4 sur 5 d'entre eux vivent dans la pauvreté et la misère. Ce sont les mots même de son secrétaire général Ban Ki-moon. C'est la crise humanitaire la plus grave de notre temps, a-t-il encore rappelé en ouvrant la 3e conférence des donateurs sur la Syrie à Koweït. L'ONU a fixé à 8,4 milliards de dollars en un an l'aide financière nécessaire pour venir en aide aux plus de 10 millions de réfugiés ou déplacés, soit quelques 23 millions, la moitié des 23 millions d'habitants que compte la Syrie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 20 minutes pour notre édition du soir. Le Monde aujourd'hui, présenté par Morgane Guiriec et Idrissa Sedoudia. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur